Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, c'est le magazine en direct de toute la scène française, inclusive au maximum, 22h, 23h, à podcaster évidemment. Ce soir au programme, la voix envoûtante du chef de file du mouvement Neo Swing avec un album qui fait le pont entre un piano bar new-yorkais et peut-être l'énergie rock de ses origines celtes. Paddy Sherlock, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, une légende, un pilier, une histoire à lui tout seul du monde de la musique, de la radio et des clubs, on l'appelait l'ouvre-boîte. Il a connu Johnny, Eddie, Dutronc, dont il retrace le fabuleux destin depuis leur adolescence parisienne jusqu'au concert des Vieilles Canailles. Sam Bernet, bonsoir à vous.
Bonsoir Laurent, bonsoir Paddy, bonsoir Marion.
Bonsoir Sam.
Marion.
Salle de concert toujours fermée, mais ça n'empêche pas certaines de chanter, comme Cléa Vincent qui reprend Véronique Sanson chez Madame Arthur. On en parle avec elle vers 22h30.
Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. On entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite avec un titre que vous avez choisi, Sam Bernet, parce qu'on vous a donné la playlist de France Inter. Vous qui avez travaillé sur Europe 1 et RTL, vous voyez comme on est bien gentils.
Oui, oui.
Voilà, donc on vous a donné la playlist de France Inter, vous avez choisi.
Et c'est moi qui commence. Alors, j'étais ouvre-boîte, certes, mais j'ai aussi été appelé gentleman fermeur.
Pourquoi fermeur?
Parce que je fermais les boîtes.
Parce que vous les fermez, vous les ouvriez, les fermez. D'accord, très
le
bien.
Le dernier à partir.
Dernier à partir, oui.
Donc, Bateau Mouche d'Eddie Depreto.
Oui.
Comment l'homme de radio peut-il nous expliquer cela?
Bon, c'est très simple. Depreto, je le connais pas. Hein. Je l'ai vu à la télévision plusieurs fois. Ouais. Je trouve qu'il a une bonne bouille. J'aime bien ce qu'il fait. Et puis, quand il était sur la playlist, j'ai dit pourquoi pas lui. Et j'ai choisi tout simplement.
Eh ben, c'est parti.
Bateau Mouche. Ouais, j'ai bien aimé le titre en plus.
Ouais, ce sont ses débuts, vous savez.
Oui, 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 oui.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet et dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume Célio et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large, je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, disque les entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, début, début. Je découvrais Paris,
je découvre l'étranger,
je viens d'où il fait gris,
où on laisse tout trop l'air,
les monuments crarés,
emportés comme jamais,
avec une envie,
m'installer sur ce pavé,
à chanter toute ma vie,
pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent,
pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment,
monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons,
comme je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, début, début. Je devais quitter mes Nike, les laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte, pour montrer ce que je vaux. montrer combien je fake. Les gens te le manalo. Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau. En maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, début, début. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
Paddy Sherlock et Sam Bernett sont nos invités de ce soir. D'abord, est-ce que vous vous connaissez l'un l'autre ?
Non, moi c'est la première fois que je rencontre Paddy, mais on vient de discuter ensemble, on a beaucoup de points communs.
Voilà.
L'Irlande notamment.
L'Irlande, on vient de discuter. Il a un oncle qui habite à, dans une ville à côté de Carrickfergus, où moi j'ai habité très longtemps pendant mon adolescence. Et puis, il a de la famille dans le nord de l'Irlande. Et donc on a parlé un petit peu de tout ça et j'ai retrouvé un Paddy en pleine forme.
Et moi j'ai trouvé un Sam avec un autre intérêt en commun, c'est qu'il a fait son livre sur les vieilles canailles et moi j'ai joué avec Yarol.
Yarol Poupeau, qui était bien sûr un des guitaristes.
Chez FFF, donc, qui était le guitariste.
C'est pour cette raison, bien sûr.
Et après la mort de Johnny, j'ai fait un concert où il y avait FFF, on a joué avec l'orchestre de Johnny.
C'était un hommage à Johnny après sa mort, oui.
Alors, Sam Bernett, c'est toute une vie passée dans, à côté, sur, autour de la musique, à la radio, dans des bouquins consacrés à Johnny, Renaud, Eddie Mitchell, Jim Morrison, mais aussi auteur de chansons, directeur de label, patron de boîte de nuit, le Malibu, le Boost Palladium, le Martins,
l'Elysée, Circus,
où Jim Morrison est mort. Absolument. Vous étiez là ce soir ?
J'étais là ce soir-là, c'est moi qui l'ai découvert. Ça va faire 50 ans dans la nuit du 2 au 3 juillet.
Vous avez même consacré un livre sur cette histoire.
Bio de Morrison.
Parce qu'il y avait une légende comme quoi il était mort
ailleurs. Il y a eu plusieurs versions, sauf que petit à petit, tout le monde reconnaît que ma version est la version officielle.
Dont Marianne Faithfull d'ailleurs, qui a accrédité cette version-là
lors d'une interview à la BBC. Elle a dit qu'effectivement, ce soir-là, elle était à Paris et que Jim était mort au Rockin' dans le Circus d'une overdose. Il y a eu d'autres gens, d'autres personnes. Le manager des Doors lui-même, qui était venu à Paris le lendemain de la mort de Jim, puisqu'il avait été appelé à venir reconnaître le corps, on lui a dit... Il m'a dit à moi beaucoup plus tard que la maison de disques Capitol lui avait demandé à l'époque de ne rien dire sur la mort de Jim Morrison dans une boîte de nuit à Paris.
C'était ça le problème. Ouais.
Et comme l'album L.A. Woman allait sortir, je ne pense que pour pas parasiter la sortie de l'album, on avait demandé à tout le monde de se taire et de dire que la version officielle c'était celle d'Oliver Stone dans le film Les Doors. Et à ce sujet, j'ai juste une petite anecdote. Je me suis retrouvé un soir dans un dîner d'anniversaire auprès d'une dame d'une soixantaine d'années, 65 ans, bijoutée, parfumée, très élégante, et comme j'étais son voisin de table, je me suis présenté, et elle me dit « Je m'appelle Madame Stone ». Et pour rire, je lui fais comme Oliver, elle me dit « Mais c'est mon fils ». Et donc, c'est une Française, elle s'exprime...
Oui, bien sûr, lui aussi s'exprime très bien.
Bien sûr, s'exprime très bien en français. Donc, je lui dis « Ah bon, très bien, bah, écoutez, c'est drôle. » Et puis, bon, « Qu'est-ce que fait votre fils actuellement ?» Elle me dit « Il prépare un film sur les Doors. » Et je lui dis « Bah écoutez, s'il a envie d'avoir la vraie fin de Jim Morrison, je vais vous laisser mes coordonnées. Éventuellement, vous dites à votre fils de m'appeler. » Et il m'a jamais appelé.
Mais tu parles. Paddy Sherlock, c'est une autre histoire qui commence en Irlande, la Royal Music Academy, puis des groupes de jeunesse. On va parler de tout ça plus tard. Mais avant d'arriver à Paris, dans les années 80, au milieu des années 80, en 86, avec votre trombone, votre guitare, qu'est-ce que vous veniez chercher à Paris à cette époque, en fait?
Ah, ok. L'aventure, la romance, et tout ça. Dans les années 80, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont émigré, qui ont quitté l'Irlande. Il y avait beaucoup de chômage. La grande partie sont allés à Londres ou en Boston, New York pour travailler sur les chantiers. À Londres, dans les finances, c'était le miracle de Thatcher, dites. Et moi, j'avais aucune envie d'aller là-bas pour le miracle de Thatcher. Donc, j'ai préféré voir ailleurs. Et j'avais une idée très romantique de Paris. après James Joyce, Samuel Beckett, Oscar Wilde et tout ça. Donc je me voyais en artiste et je dis, tiens, Paris m'appelle et je suis venu à la recherche d'aventure et de autre chose, juste pour voir autre chose.
Ça s'est confirmé, ouais.
Et la romance, pas la romance, l'amour, j'ai trouvé ça aussi, heureusement.
On trouve tout à Paris.
Mais la romance, le romantique, tout ce qui est différent et coloré.
Ça a marché ? Pour vous?
Bah, je suis toujours là, ben, oui. Plus de 30 ans plus tard. Donc, oui.
Alors vous, c'est le chemin inverse, hein, Saint-Bernard. Vous avez travaillé au New York Times à Paris, puis à New York, dans les années 60. Et moi, je me suis demandé, est-ce que vous avez fait de la radio à New York? Parce que, je vous pose cette question, parce que quand vous revenez en France, toujours dans les années 60, vous allez devenir un pilier de RTL, le super club, déjà club RTL, c'était vous pendant 15 ans, il y a eu aussi Europe 1. Est-ce que l'idée de la radio est née aux États-Unis?
Oui, absolument, bien sûr. Pour moi, la radio américaine dans les années 60, et spécialement à New York, c'était la radio avant tout. C'était l'arrivée du rock'n'roll, c'était les disc jockeys complètement fous à l'antenne, etc. Donc moi, j'étais passionné de radio. J'ai même rencontré un des plus grands, Wolfman Jack, en Californie, et Tommy Murray the Key, qui était un grand disc jockey new-yorkais. Et donc j'étais pris par la radio, et je me suis dit à ce moment que j'étais parti pour être journaliste, en fait,
New York Times,
et puis je me suis dit, si je dois faire de la radio, c'est ce que je veux faire absolument. Donc je suis rentré en France en 65, et puis j'ai pas une grande chance, je suis rentré à RTL où je suis devenu l'assistant d'encore un très grand disc jockey qui s'appelait le président Roscoe. Et je l'ai assisté pendant 2 ans. Et le jour où il est reparti en 68 à Londres, puisque avec les événements de 68, un Américain bien paranoïaque, il a pensé que les Soviétiques étaient à la porte d'Orléans. Donc il a fait ses valises, il a rendu son contrat à RTL. Et le plus naturellement du monde, la direction d'RTL m'a demandé de prendre le micro à sa place.
Et là, vous avez connu absolument tout le monde. Alors je vais vous faire écouter 2 sons liés à vos histoires respectives. Le premier. C'est un son pour vous, Sam Bernett. Metallica.
Ah oui, bien sûr, mais j'osais même pas le dire.
Ah bah c'est quand même énorme.
Oui, c'est énorme.
Vous qui avez découvert Metallica, en tout cas,
pas vraiment découvert.
Le label. Vous aviez créé un label.
J'ai créé un label qui s'appelait Bernett Records, et j'ai produit et distribué les deux premiers albums de Metallica, dont un est aujourd'hui collector à cause de sa pochette qui avait été mal imprimée en France. Alors que en Angleterre, la couverture devait être bleu pâle. Notre imprimeur, dans la précipitation, puisqu'on devait sortir l'album très vite, s'est trompé dans les couleurs. Il a sorti la pochette en vert. Ce qui fait qu'au bout, on était obligé de sortir l'album, on l'a sorti tel quel. Et petit à petit, au fur et à mesure, et quand les années passaient, les gens recherchaient cet album en
bien
particulier.
Entendu.
Et on m'a signalé qu'il y a très peu de temps que sur eBay ou sur un site de vente d'occasion de disques, il était monté à 2 ou 3 000 dollars ou quelque chose comme ça.
C'est une bonne affaire. Un autre son, il est pour vous bien sûr, Paddy Sherlock. Kiss my girl by the factory wall. Turn the old town. Turn the old town. Clouds are. Alors c'est un son qui est lié à un événement douloureux et difficile,
Paddy Sherlock. Oui, c'est la première fois que je l'entends depuis le jour même, donc...
C'est la cérémonie d'enterrement de Sharp.
De Sharp, oui, et ça me fait très triste tout à coup. C'était un bon ami, j'étais surtout là, mon grand ami c'est Patrick Palou. Et je le connais depuis, on était étudiants ensemble, pas dans le même sujet, mais je le connais depuis aussi longtemps que ça. Et c'est lui qui a amené Sharp à mes concerts.
Tout à fait.
Et
ouais.
Sharp, il adorait mes concerts. Et chaque fois, il était là, et c'était Dirty Old Town, Dirty Old Town. Donc je le faisais ça pour lui. Et quand il est mort, Patrick m'a téléphoné pour me demander de faire la musique pour l'enterrement. Et il m'a dit, bien sûr, Dirty Old Town.
Et c'est donc la dernière chose que l'on entend lors de cette cérémonie pour Sharp.
Oui, et c'était très très dur parce que j'étais là avec, on était 17 musiciens.
Oui.
Et j'ai fait un fanfare donc plutôt brass et batterie et tout ça, moi la guitare et j'ai chanté. Et avant nous, c'était les gens qui disaient leur adieu et tout ça. Et c'était très très sombre. Et notre chanson était sombre, mais des gens quand sont venus me voir après pour me dire merci d'avoir rendu le insupportable supportable. Donc c'était quand même très important d'être là et ça m'a beaucoup marqué. Même en entendant maintenant, je suis surpris.
Entendre ce son. Allez, on va faire un retour dans le passé. Paris, Bercy, 5 novembre 2014, du décor du Conseil des Vieilles Canailles. Vous l'avez encore dans les yeux, Sam Bernett ?
Oui, bah oui, évidemment. Ah. Évidemment, c'est là où j'ai eu le flash de les voir tous les trois ensemble, à peu près 77 ans.
Le décor, vous vous rappelez ?
Bah, un grand bar,
une
jukebox par laquelle ils sont entrés tous les trois au début de concert. Et puis cet orchestre formidable, qui est l'orchestre d'Eddie Mitchell, dirigé par Michel Gaucher au saxophone, magnifique. Et puis cette entrée sur scène, et là j'ai eu un flash, je l'ai regardé à tous les trois à 77 ans, et tout est revenu en arrière. J'ai dit, mais ils ont eu un parcours extraordinaire, c'est un destin absolument fabuleux. Il faut absolument raconter cette histoire.
Ouais, parce qu'en fait, la boucle est bouclée, puisqu'ils se sont tous connus à la même époque, à l'âge de 15-16 ans. Il y a 15 000 spectateurs, ouverture, c'est Crac Boom U de Dutronc. Dernier titre, c'est Toute la musique que j'aime, de Johnny. Et au milieu, Vieille Canaille, un titre en hommage à Gainsbourg, comme une sorte de parrain.
Un peu, oui, puisqu'il a fait un duo avec Eddie Mitchell. C'est une vieille chanson américaine, hein, Canaille. Et donc, ils avaient repris ça avec Gainsbourg. Évidemment, c'était symbolique ce soir-là. Fallait absolument chanter Vieille Canaille. Alors.
Quand tu seras mort, vieille canaille, ouais. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Je serai content d'avoir vos mots, vieux chameau.
Rester assis à bras ouverts, ces vieilles canailles. Il y avait toujours ton couvert, vieille canaille. T'as même fumé dans mon lit et t'as sifflé tout mon whisky, vieux bandit.
Puis j'ai présenté ma femme, vieille canaille. J'ai présenté ma femme, vieille canaille. Tu lui as fait du baratin, tu l'embrassais dans mes coins. Dès que j'avais tourné le dos, vieux chameau.
Je suis parti avec elle, vieille canaille. Oui, je suis parti avec elle, tu sais, vieille canaille.
En apportant la vaisselle, le dessus de lit en dentelle, mes blourets, mon magnéto, vieux chameau.
Salaud.
Toutes ces sortes de choses, hein.
Vieille canaille, c'est le titre de ce livre aussi, Sam Bernett, qui revient sur le fabuleux destin, sous-titre de pour Johnny, qui est né en 43, premier disque à 16 ans, je le rappelle, Eddie Mitchell, né en 42, Jacques Dutronc, né en 43, lui aussi. Vous étiez un petit peu plus jeune, hein, 2 ans de moins, ça compte encore à cette période-là.
À cette période, oui.
Ouais, quand on est adolescent, ça compte.
Il y a les grands et les petits. Après, alors, on se rend compte.
Que vous avez le même âge, exactement.
Absolument.
Alors, vous revenez sur la naissance de leur amitié qui commence Square de la Trinité à Paris, parce qu'en fait, ils se sont connus tous très jeunes. Ils sont partis de la même bande.
Ils sont partis de la même bande à 15 ans. C'est-à-dire que Johnny revenait en France après une tournée européenne avec sa famille, puisque ses cousines, Lee Hallyday, avaient créé un numéro de variété qui s'appelait The Hallydays. Et ils ont, Johnny, à partir de l'âge de 5-6 ans, a parcouru toute l'Europe, Londres.
Des hôtels miteux,
des hôtels lamentables qui sentaient le vieux tabac et le choubi. Et il a fait la Norvège, il a fait le tour d'Europe entre 5 et 15 ans. Et en rentrant à Paris, il avait envie de, surtout d'être comédien. Il pensait pas du tout être chanteur. Et il s'est inscrit à un cours de comédie. Et pour pouvoir payer ses cours de comédie, il a commencé à chanter. Ça tombait bien puisque Dutronc lui-même avait déjà un groupe qui s'appelait les Dritons.
Alors que lui-même n'avait aucun plan de carrière. Hein. Dutronc, tout le monde est tombé dessus.
Oh là là. Le père Dutronc, c'était le nez au vent, les mains dans les poches, en disant, tout compte fait, on fait de la musique, c'est très bien. Mais moi, j'ai voulu, dans ce livre, surtout raconter des choses. Bon, les fans connaissent bien leurs idoles et leur histoire, mais il y avait des petites choses qu'ils ne savent pas. Par exemple, pourquoi est-ce que Dutronc joue merveilleusement de la guitare? Parce qu'il a été alité pendant un an avec une maladie terrible, ça s'appelle la maladie de Bouillot, une espèce de maladie neuromusculaire, où il ne pouvait pas bouger les jambes, le genou surtout, et il a pris de la guitare de son frère, et pendant un an, il a appris à jouer de la guitare. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que Johnny, tout petit, a avalé des paillettes d'acide, qui aurait pu lui brûler les cordes vocales, il serait jamais devenu chanteur. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'Eddie Mitchell, qui est issu d'un milieu plus que modeste, le 15 du mois, pour faire manger tout le monde, la mère mettait de la mie de pain dans des bols de vin rouge, et c'était le repas du soir, le 15 du mois, à partir du 15 du mois.
Mais il y avait tous des problèmes financiers, parce que Johnny allait chercher, par exemple, dans la fontaine de Tréville, les pièces que les touristes allaient chercher pour pouvoir nourrir sa famille.
Lorsqu'ils étaient à Rome, la nuit tombée, Johnny partait de l'hôtel et allait plonger ses mains dans la fontaine de Trévis pour récupérer les pièces.
C'est pour ça que c'est aussi leur réussite, c'est aussi l'histoire d'une revanche sociale.
C'est pour ça que c'est un fabuleux destin, c'est une revanche sociale. Ils viennent tous les trois d'un milieu très modeste, parce que même Jacques Dutronc, qui est le fils d'un ingénieur, dit qu'il a dormi dans la chambre de ses parents jusqu'à l'âge de 13 ans, parce qu'il n'y avait que 3 pièces dans l'appartement. Donc ce sont des types qui se sont retrouvés à 15 ans au square de la Trinité, la bien nommée, et l'un avait une guitare, Johnny s'est approché, Mitchell, qui travaillait pas très loin dans une agence du Crédit Lyonnais, les a retrouvés un jour autour d'un flipper, et ils sont devenus potes jusqu'aujourd'hui, quoi.
Puis Johnny et Dutronc faisaient du trafic, ils allaient piquer dans les booms les disques,
tout ça,
ils les revendaient ailleurs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu une embrouille avec Eddie Mitchell. Ils se sont cassés la gueule, puisque chez Eddie Mitchell, Johnny commençait à piquer des trucs pour les... on apprend absolument tout ça.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est cette fraternité, vraiment cette amitié
indéfectible jusqu'au
jour d'aujourd'hui.
Ils se téléphonaient régulièrement le mardi au téléphone.
Tout le mardi, Eddie appelle Jacques, ils ont une conversation. Bon, ils s'appellent aussi entre-temps pour d'autres choses. Mais le mardi, c'est un rendez-vous téléphonique depuis des années. Et puis, ils sont restés. Alors, ils disent toujours, évidemment, quand on a commencé à être connus, la presse a essayé de nous embrouiller.
Voilà,
les uns contre les autres. Mais pas du tout. Nous, on se retrouvait dans des dîners, on picolait, on faisait de la musique et c'est tout ce qui comptait pour nous.
Avec Johnny, c'est une histoire quand même, une amitié entre vous qui date sur près de 55 ans, parce que vous avez travaillé avec lui à plusieurs titres. Vous lui avez écrit notamment cette chanson.
Et d'attraper et de boucler. Oui, mais voilà, c'est moi. Comme un ange venu de l'enfer. Un jour, je fonce dans un bruit de tonnerre. Ils ont peur d'eux. Et vous n'avez bien. Oui, mais voilà, c'est moi.
Vous lui avez écrit d'autres chansons, Sam Bernett, pour Johnny?
Non, la seule.
Vous avez écrit pour Nicoletta aussi, pour d'autres?
Oui, pour Nicoletta, pour Martin Circus aussi, oui, bien sûr. Mais là, pour Johnny, c'était en 72, c'était après son premier trip, road trip.
Johnny Circus.
À moto. Alors, Johnny Circus.
Ça, c'est autre chose, on va en parler parce que c'est hallucinant. Vous connaissez cette période, le Johnny Circus, en 1972, de Johnny?
Non, je connais très bien la musique de Johnny, mais je ne suis pas expert de période. Donc,
vous connaissez bien cette musique-là?
Voilà, c'est Johnny Rider qu'on entend là.
Ouais. Okay. Alors, c'est la période de Johnny Circus en 72, vraiment vous lui consacrez un petit chapitre, parce que c'était une période absolument dingue, mais un vrai truc de dingue, de fou total. Il tombe amoureux, fou, d'une mante religieuse, la choriste Nanette Workman, qu'on va retrouver des années plus tard dans Starmania, parce que c'est de la voix puissante de Starmania, elle joue le rôle du travesti. Une passion de folie jusqu'à jouer à la roulette russe dans un bistrot, avec de vraies balles dans le... Ils en étaient à un point de folie totale.
Oui, c'était à Salon de Provence, dans un restaurant qui s'appelait Chez Gu. On allait régulièrement, puisque c'était le seul établissement ouvert tard pour réunir toute la troupe et aller dîner. Et il fallait passer une espèce de gros rideau en velours pour aller aux toilettes. Et puis, en passant derrière ce rideau, je vois Nanette et Johnny en train de jouer à la roulette russe. Et là, je leur dis, mais qu'est-ce que vous vous foutez? Et Johnny m'a dit, regarde, il ouvre le barillet, il y avait une balle dans le barillet.
Mais en plus, c'était sous influence, enfin, c'était vraiment le carnage total. Elle a dû repartir en pleine dépression. Enfin,
elle a été hospitalisée en pleine dépression. Ça a été un cauchemar et
Vous étiez le présentateur. C'était l'époque où on aurait pu faire ça, être les monsieur et madame Loyal des concerts.
Pendant 3-4 mois sur la route, moi je partais avec le Johnny Circus, dont le sponsor principal était RTL à l'époque. Et donc, comme j'avais mon émission quotidienne, on m'avait dit, tu vas suivre la caravane, tu ferais ton émission dans chaque ville où vous passerez. Et Johnny m'avait dit, puisque tu viens avec nous, je l'avais déjà présenté dans les spectacles précédents. Il aimait bien à l'époque, puisque je présentais à l'américaine. Alors, je faisais siffler les gens, je faisais taper, je faisais reprendre des refrains, je faisais chanter. Il adorait ça. D'ailleurs, il me regardait en coulisses. Et puis, de temps en temps, je le regardais en disant, bon, on y va. Il me faisait continue.
Pour le chauffer.
J'ai suivi la tournée du Johnny Circus. Et puis, j'étais sur scène tous les soirs. Donc, ce soir-là, ce fameux soir à Grenoble, où il a fallu que je reste pratiquement 3-4 heures sur scène, parce que Johnny avait disparu. Alors, il avait disparu où, quand, comment, je ne sais pas. En tout cas, il n'était pas là. Moi, j'étais sur scène, les musiciens avaient commencé et on me faisait des signes. Alors, il y avait une première partie avec Ange et Nanette Workman aussi qui faisait son numéro. Et puis, il y avait un entracte. Donc là, on était peinards. Et on s'était dit, après l'entracte, il va arriver, quoi. On est allé à l'hôtel voir si c'était endormi. On a fait tous les bars pour voir si éventuellement il n'était pas écroulé sous une table. Et puis, pas de Johnny. Et on s'aperçoit très rapidement qu'il a disparu. Et on recherche son secrétaire Sacha Roul, va à la gendarmerie nous rappelle, et Johnny est en train de prendre un avion à Grenoble pour Londres parce qu'il veut retrouver Sylvie Vartan. Ils sont en instance de divorce.
Oui.
Et comme tout va mal, il veut absolument aller, et nous on est sur scène pendant ce temps-là, et moi je fais chanter les gens, et je fais épeler le nom de Johnny. Alors les filles, vous allez dire J, alors J, et les garçons, vous allez dire H, et comment s'appelle-t-il? Johnny. Et je regardais, il n'est pas là. Alors avec, et comment s'appelle-t-il? Hallyday. Alors, etc. Et à la fin, j'ai fait une espèce de voice avant l'heure. C'est-à-dire, j'ai dit dans la salle, est-ce qu'il y en a qui connaissent par cœur les chansons de Johnny? Alors évidemment, ouais. Et je me suis retourné vers Mickey Jones et Tommy Brown, qui étaient les chefs d'orchestre de Johnny à l'époque. Je dis, on les fait. Il me dit, oui. Et je regardais toujours. Et ça a duré 3 heures et demie. Wow. Il était déjà 2 heures du matin. J'étais monté sur scène à 10h30, à 11h. Et donc ça chante et ça continue, et là j'en peux plus, j'ai dû perdre 10 kilos. Et on offre des t-shirts au machin.
La caravane Saint-Bernet.
C'est incroyable. Et d'un seul coup, je regarde et on me dit viens. Donc Tommy Brown et Mickey Jones continuent à jouer. Je descends et il y a un taxi et Johnny sort, ne regarde personne. File dans sa loge, c'est une grande, très belle caravane, il y a 3 petites marches, c'est important parce que lorsque 20 minutes plus tard, il va ouvrir la porte, magnifique, coiffé, maquillé, splendide, il ouvre la porte, il reste sur ses 3 petites marches et il me regarde et me fait « Alors Sam, on y va ?»
Vous avez vécu des concerts aussi particuliers, vous ? Pas à ce point-là, j'imagine.
Ça, c'est un record.
Ouais, c'est vraiment un truc dingue.
Et en plus, c'est Johnny Hallyday, donc c'est pas n'importe qui.
Sinon, n'importe qui, les gens seraient partis, je peux vous garantir.
Est-ce qu'on peut mettre à sa place?
Sam Bernett, il a fait une salle. Donc,
bravo Sam. Ouais. Mais c'est comme si Jagger était disparu ou quelque chose.
Exactement.
C'est quand même énorme.
Ça a dû arriver.
Énorme.
Alors, vous racontez plein d'autres concerts, parce que, en fait, ce qui les lie aussi, entre autres leur amitié, la revanche sociale, mais c'est aussi le sens de la déconne et le sens presque du surréalisme belge. Vous parlez notamment de concerts, les gala-concerts, les gala-galères. C'est-à-dire quand on débute, c'est toujours la foire, on va dans des trous perdus, il n'y a même pas de scène, il n'y a même pas de projour, enfin, il n'y a rien. Mais notamment, vous racontez, et celui qui est le maître là-dedans, c'est Jacques Dutronc. Il fait des concerts, il arrive, parce que bien sûr, on lui jette des tomates, il arrive avec ses propres provisions, et dès qu'on lui jette une tomate, au lieu de les ramasser, de les renvoyer, lui-même, il avait ses cajots, il les balance. Il fait des concerts en slip. Il fait des concerts en soutane.
En soutane, oui.
Il fait des concerts avec du papier hygiénique.
Il se prépare des spaghettis sur scène. Et à la fin, il a une salle de japonais parce qu'il passe dans un cabaret parisien et il chante la Marseillaise.
Il les fait lever.
Alors les japonais ne comprennent rien et vite le personnel de la salle fait levez-vous, levez-vous. Et vous avez des japonais au garde-à-vous en train d'écouter la Marseillaise de Jacques Dutronc. Mais non, mais il y a ce concert, un des concerts tout au début. Alors on lui demandait de venir faire des concerts, mais il avait qu'un titre.
Il avait quatre chansons, il devait durer 60 minutes.
Alors il avait des contrats où il devait. Alors il rajoutait, il chantait des chansons de Mireille Mathieu. À sa façon, il faisait Carlébelle, Carlébelle, dans sa robe de mariée. Il chantait toutes sortes de choses. Et à un moment donné, il voulait plus faire de concert.
Alors il n'avait que quatre titres.
Il envoyait ses copains à sa place. Et le garçon qui aurait dû être le chanteur de Et moi, il s'appelle Adi Calafate. Donc c'est un vieux copain de Dutronc, de la Trinité. Ils ont traîné ensemble depuis toujours. Et Calafate était le bassiste du groupe. Et Jacques lui avait dit, va chanter à ma place, va prendre la route. Moi, j'ai pas du tout envie de prendre la route. Et un soir, il est à Paris, il tourne en rond, il s'emmerde, et ils sont au Touquet, c'est pas très loin. Il les appelle, je vous rejoins. Et il arrive, le concert a commencé, et il est là en coulisses, et ils attaquent, c'était la fin du spectacle, la dernière chanson, ils attaquent et moi. Et là, Calafate prend
Dutronc.
Jacques par le callback et dit bah mon vieux vas-y maintenant
c'est ta chanson
et Jacques chante évidemment et moi et les gens dans la salle commencent à on connaissait pas Jacques, il avait pas fait de télé très peu et avec une chaîne ou deux chaînes de télévision à l'époque et ils disent mais c'est le gars qu'on entend à la radio, c'est la même voix, mais c'est Jacques Dutronc, c'est lui. Et le type qui avait organisé le concert pour 3 francs 6 sous, il avait la vedette en vrai et voilà. C'est des...
Vous qui avez été patron de boîte de nuit, lequel dansait le mieux les trois?
Lequel dansait le mieux?
Ouais.
Aucun.
Ah bon?
Non.
J'étais nul en
non, danse. Alors Eddie Mitchell, il avait un truc, il prenait son verre et il allait s'asseoir à côté du disc-jockey sur un tabouret une grande partie de la nuit et il disait, moi je viens regarder la musique. Bon, très bien. Mais il y a des heures comme ça, on dit des choses comme ça aussi. Hein, oui. Johnny ne dansait pas, mais il montait régulièrement sur scène. Moi, j'avais fait en sorte que toutes les boîtes où je suis passé, je mettais des instruments sur une scène pour faire des boeufs. Ce qui fait qu'on a eu des boeufs formidables avec Gene Vincent, avec Carole Garner, avec des gens de passage à Paris qui faisaient l'Olympia et qui venaient ensuite. Et donc, Johnny, lui, son truc, c'était quelqu'un monte sur scène, je monte sur scène avec lui et je chante et je m'amuse. Quant à Jacques, il ne sortait pas du tout. J'ai jamais vu en boîte Jacques, jamais.
Sam Bernett, Paddy Sherlock, vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. On a rendez-vous avec Marion Guilbault. Mais juste avant, je vous propose d'écouter une artiste que vous connaissez bien, j'imagine, Sam Bernett, puisque vous les avez tous reçus, que ce soit à Europe 1 ou à RTL. Jane Birkin.
Ah bah oui, bah pourquoi pas.
Pas d'accord sur France Inter.
Bang, tu m'as touché. Aux ailes, je suis blessée. Et sans un remords, tu me regardes couler. Dans ce corps à corps, j'esquive les coups. Et j'exprime très fort mon désaccord. Aux ailes, je suis blessée. et sans un remords. Tu me regardes couler dans ce corps à corps. J'esquive les coups et j'exprime très fort mon désaccord.
Jane Birkin avec un son signé Étienne Dao, l'album « Oh pardon, tu dormais ».
Le tempo ?
Côté club.
140 BPM.
Côté club.
Et la vie, elle a un tempo.
Sur France Inter.
Et on garde le rythme avec Marion Guilbeault.
Vous connaissez, j'imagine, Sam Bernett, Véronique Sanson.
Oh oui, très bien. Oui.
Bien sûr. Cléa Vincent ? Peut-être pas.
Alors,
Madame Arthur, peut-être pas non plus.
Une autre, peut-être,
voilà,
mais pas celle-là.
Pas celle-là. Madame Arthur, c'est le cabaret le plus musical, le plus pétillant de Paris. Tous les jeudis soirs, Lola Dragonès, Odile de Mainville et Grand Soir revisitent en bonne compagnie le répertoire d'une icône de la chanson française. Après Étienne Dao avec Barbara Carlotti, c'est le tour de Véronique Sanson avec Cléa Vincent. Une Cléa Vincent qu'on a souvent reçue dans Côté Club. La dernière fois, c'était en mai 2020, Laurent, pour son dernier EP Tropi Cléa 2. Une Cléa Vincent qui a plus d'un point commun que Véronique Sanson, dont celui-là. Bonsoir Cléa Vincent.
Bonsoir Marion Guilbeault.
Bonsoir Cléa.
Bonsoir Laurent.
Bienvenue dans Côté Club, c'est votre baïa à vous qu'on vient d'entendre. Vous allez être sur la scène du cabaret Madame Arthur, ça va être demain soir en live stream à partir de 21h pour un spécial Véronique Sanson. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu les chansons de Véronique Sanson ?
Oui, je me souviens très bien parce que adolescente, j'écoutais Chérie FM, figurez-vous. Alors aujourd'hui, c'est France Inter, bien sûr.
Bien sûr.
À l'époque,
évidemment.
J'avais moins de goût. et c'est comme ça que j'ai découvert toute la clique Michel Berger, France Gall, Véronique Sanson, et j'ai tout de suite adoré. Et je pense que ça m'a beaucoup influencée.
Un mot sur sa voix, à Véronique Sanson, elle a un vibrato très particulier. Vous, en tant que chanteuse, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Ça m'évoque une femme qui s'assume pleinement dans ses vibrations, dans son timbre, et qui n'a pas peur d'affirmer ce qu'elle est et ses goûts musicaux. Je suis très très fan, hein, je ne vais pas vous mentir.
Et vous avez déjà essayé de chanter comme elle ?
Ah non, je serais bien incapable sur justement la chanson Baïa, son Baïa à elle. Elle fait un vibrato magnifique et je suis bien incapable de faire le même. C'est pour ça que je suis pétrie d'admiration.
Et un mot aussi sur son jeu de piano, parce que vous aussi, vous jouez du clavier.
Elle a un jeu de piano à la Carole King. Je pense qu'elle était influencée par les songwriters américains de sa génération. Et donc, elle a un jeu qui est très jazz. Et très pop aussi, mais la pop américaine qui est assez complexe harmoniquement. Et franchement, elle a un super niveau et c'est très très remarquable. Et elle a aussi une vraie force dans les mains, dans les doigts. Elle envoie à fond, un peu comme Barbara aussi, qui a ce jeu très très puissant.
Ouais, très rythmique. Vous l'avez déjà rencontrée ?
Très rythmique et aussi, elle, vraiment, le piano, il sonne bien fort, quoi. Elle envoie J'ai envie de dire comme un homme, ça fait un peu sexiste de dire ça, mais c'est vrai, elle a une vraie force en fait. C'est impressionnant.
Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée, vue en concert ?
Bah, grâce à vous, je l'ai vue dans les studios de France Inter. C'était une émission full sentimentale. Mmh. Elle était invitée et j'avais comme défi de faire une reprise de Véronique Sanson devant Véronique Sanson. C'était pas facile, mais je suis allée du point A au point B et j'ai réussi à exécuter la mission.
C'était quel titre ?
C'était un titre qui s'appelle « Je voudrais être un homme ». Qui est sur un de ses derniers albums. Et figurez-vous qu'elle se souvenait même pas de cette chanson.
Non.
Parce qu'elle en a écrit tellement. Donc elle a dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette chanson.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait Véronique.
Demain soir, Cléa, vous êtes l'invitée du cabaret Madame Arthur pour un live stream. Alors, combien de chansons vous allez reprendre ? C'est une question triviale, mais elle est importante parce que pour ce live stream, les artistes, ils ont seulement 48 heures de création sur place avant de se lancer en direct à 21h. Alors, comment vous allez faire ? Combien de chansons avec des musiciens toutes seules ?
Donc, demain, on sera 4. Il y a 11 chansons en tout. Donc on est 4, il y a un pianiste exceptionnel parce qu'il y a vraiment un très haut niveau musical dans la troupe de Madame Arthur. Donc le pianiste est excellent, il est également chanteur. Il y a une chanteuse magnifique qui est une femme, parce qu'il y a aussi des femmes dans la troupe de Madame Arthur, qui chantent lyrique extrêmement, extrêmement bien. Et puis il y a un troisième artiste qui a une voix très grave et qui incarne magnifiquement les chansons, qui est plus la 50-60aine et qui vraiment est bouleversant dès qu'il ouvre la bouche.
Et pour l'aspect visuel, Cléa Vincent, vous allez devenir blonde avec une queue de pie ?
Alors on m'a proposé de me transformer en surfemme.
En surfemme ?
Plutôt qu'en surfemme, c'est-à-dire beaucoup plus coiffée, beaucoup plus maquillée, en talons aiguilles, etc. Et j'ai préféré qu'on me transforme en garçon.
J'étais sûre.
Bien sûr.
Je me suis dit que je serais plus à l'aise. Parce que comme vous dites, il y a 48 heures pour préparer le spectacle. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'assure que je sois à l'aise. Et je me sentais plus à l'aise dans la peau d'un garçon que dans la peau d'une surfemme.
Cléa Vincent, pour nous donner envie, vous avez enregistré un petit bout de répétition. Vous avez fait presque une prouesse, on va dire, cet après-midi, avec ce fameux Baïa, celui de Véronique Sanson. Un tout petit mot sur ce titre ?
Eh bien, c'est une ville dans laquelle je n'ai jamais été et qui me fait totalement rêver. Et je me pose la question de est-ce que Véronique Sanson est allée à Baïa un jour dans sa vie ? Mais en tout cas, dans la chanson qu'elle a écrite, on sent que c'est encore un rêve. L'état de rêve et de fantasme.
Merci beaucoup Cléa.
Au revoir Cléa.
Au revoir.
C'est un immense plaisir.
Et je vous rappelle.
J'étais heureuse de vous entendre.
Nous aussi, à très bientôt. Je vous rappelle le live stream chez Madame Arthur. Voilà, c'est demain soir, à partir de 21h. Tout de suite, Baïa.
S'il te plaît, je voudrais. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons. Et je t'aime, caresse-moi.
Avec nos invités ce soir, Sam Bernett et Paddy Sherlock. Paddy Sherlock qui signe un nouvel album, Dusk, Crépuscule. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, guitariste, tromboniste. Et on vous présente partout comme le chef de file du mouvement Neo Swing. Ça date de quand ce mouvement Neo Swing dont vous seriez le parrain ?
C'est une bonne question. Les années 2000 en Amérique. Et ça a traversé l'Atlantique il y a 10 ans, peut-être. Et il y a beaucoup, beaucoup de danseurs maintenant à Paris qui dansent le swing, le bebop, l'indie hop, le balbao, plein de danses qui sont revenues à la mode. Et ils sont très, très sérieux. Ils dansent super bien. Et ils aiment bien que les groupes soient dynamiques. Donc on joue ça. Et peut-être avec un peu plus de dynamique qu'avant. Parce que le monde a changé quand même. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça neo-swing. C'est pas simplement reprendre le swing à l'ancienne, comme certains groupes de jazz font super bien. Mais il y a
une dynamique supplémentaire.
Un peu plus de niaque.
Est-ce que ça correspond à votre culture musicale, vous qui avez été aussi le leader du groupe The Swinging Lovers? Est-ce que vraiment le swing, c'est la culture musicale de Paddy Sherlock, ou il y en a eu plein?
Pendant longtemps, c'était ma musique. Pendant longtemps. Mais j'ai grandi dans la musique irlandaise. On m'a donné un trombone, donc je suis allé vers le jazz parce qu'on m'a donné un trombone à 10 ans. Mon oncle de Carrickfergus justement m'a donné le trombone et je me suis mis à jouer ça. Après j'étais dans des groupes de rock. Après j'étais chez FFF depuis, ça fait 30 ans je suis chez FFF comme tromboniste. Donc j'ai plusieurs cordes sur mon trombone. Et j'avais fait swing pendant très très longtemps, et là le nouveau album c'est beaucoup plus singer-songwriter, c'est une autre partie de mon âme, donc c'est vraiment un énorme changement pour moi.
Justement,
donc j'espère
dans
que
le répertoire
mon public suit.
On va regarder, j'adore cette expression, mon public. On va écouter ça dans un instant parce que vous avez apporté une guitare. Juste une question, parce que tout à l'heure on parlait du fait que vous étiez arrivé à Paris dans les années 80, en 86. Quelle est la scène que vous rencontrez, vous, quand vous arrivez? La scène musicale, Paddy Sherlock.
Alors, moi, la première chose que j'ai fait, j'étais prof d'anglais à Sartrouville pendant la semaine. Et le week-end, j'étais allé le samedi, le premier samedi, j'étais allé à le pont Notre-Dame. Et j'ai sorti mon trombone et j'ai fait la manche dans la rue. Mm-hmm. Et j'ai joué toute seule. Et j'ai dit, quelqu'un va me voir, quelque chose va se passer. J'ai gagné 400 francs, qui était beaucoup d'argent à l'époque.
Non, on allait pas mal à l'époque. Ouais.
À l'époque. Donc je retourne le samedi après. Le samedi après, je suis en train de jouer les yeux fermés, j'ouvre les yeux, et il y a un mec devant moi avec une guitare et un autre avec le contrebasse sous son épaule. Et il me regarde. Et ils arrivent quand j'arrête et il dit, you want to be in a group, man? Tu veux être dans un groupe? Et je dis oui. Et donc, la deuxième semaine, j'étais dans un groupe. Donc, très, très vite, Paris m'a apporté beaucoup de chance. Et on m'a amené, eux m'ont amené dans un bar qui s'appelait Le Mazé. Et le Mazé, c'était de rue Saint-Denis-des-Arts. Et c'était vraiment c'était un zinc à l'époque. Et c'était le bar de tous les musiciens de la rue et de beaucoup d'Américains, beaucoup d'anglophones. Et les groupes formaient là. The Water Boys a formé là.
Aujourd'hui, changement de répertoire. On va écouter tout de suite un extrait. Vous avez apporté la guitare, donc on en profite.
Bah, je préfère jouer quelque chose que parler.
Non, mais on va parler ensuite. Le titre, c'est Last Time in New York.
Last Time in New York, ouais.
Ça raconte quoi, rapidement?
Le fin de l'amour avec une fille à New York, voilà. C'est une histoire assez ancienne.
Je peux imaginer.
Mais voilà.
Paddy Sherlock en live sur France Inter.
Ok, je vais enlever ça parce que j'ai pas besoin. We had dinner at John's place. Ice cream licked at a leisurely pace. Immune to all the rat race. Last time in New York. Buskers out in Lincoln Park. Stepping out as it got dark. Listening to all those dogs bark. Last time in New York. Out to Brooklyn to visit with Maddie Peru. That's the last time I saw Maddie, Billie Jean and you. Who'd have thought this perfect day could simply slip away? We should have given it one more play. Last time in New York.
feet, the crunch of fresh fallen snow. You smiled when I told you I'd follow you wherever you'd go. Nighttime and our bed beckoned, back to 23rd and 2nd. It was the end, but who'd have reckoned it was our last time in New York.
Wow, merci.
Super.
Salut Sherlock.
Thank you.
La première fois sur France Inter pour ce titre, Last Time in New York. Alors bien sûr, on va écouter quand même ce que ça donne dans l'album, parce que vous êtes entouré de pas mal de gens, et notamment Jeff Hallam, qui a travaillé aussi pour Dominica, pour Indizara. Yeah. Qu'est-ce que vous vouliez comme son pour cet album, Paddy Sherlock?
J'ai écrit les chansons et j'étais allé voir le coup de génie. Pour moi, j'étais allé voir Brisa Rocher.
Brisa Rocher qu'on a reçu ici.
Oui, aussi. Okay, c'est sur le label de Brisa. Ouais.
Depuis des années, Brisa et moi, on travaille ensemble, on est très très proches.
L'américaine à Paris.
Et j'étais allé le voir et je dis, j'ai un album, je veux que tu produis pour moi. Et c'est parce que j'étais là à faire qui est-ce que Yarol, il avait produit le
Yarol
dernier.
Yarol Poupeau, ouais.
Il était très très bien, mais je voudrais autre chose. Et je dis, Brisa, je pense qu'il y a son album Takes, surtout. Je dis, ça c'est le son que je voudrais. Je lui dis, tu as déjà fait un album que avec le son que je voudrais. Est-ce que tu peux me faire ça? Donc c'est elle qui a monté. Moi j'ai écrit toutes les chansons, mais c'est elle qui a monté le monde de cet album. C'est elle qui a dit, on va prendre Jeff, on va prendre Sal Bernardi au piano, qui était le piano et la guitare de Ricky Lee Jones. Steve Forward à la guitare électrique, il y a un de solo. Il a fait Sinon c'est moi l'acoustique. Ouais. Mais c'est elle qui a fait the magic dust, comme on dit ça en français, la poussière magique, pour faire que le monde de l'album ouvre.
Et bien justement, on voit ce que ça. Enfin, on va écouter tout de suite ce que ça donne. On écoute un autre extrait, Bottom of a Bottle, où on entend la voix de Brisa Rocher. Okay.
Let's get down to the bottom of the bottle. I ain't running, you just keep it coming. Let's get down to the bottom of the bottle. And that ruthless crimson morning comes a-creeping across the room.
Hold my hand, try to make me understand. Don't say that you ain't got the words. We both know that that's for the birds. Ask me up to dance. Let's not miss this chance. The blows you take when swinging close are the ones that hurt the most.
Un album crépusculaire, si on en croit le titre, Dusk. C'est un moment qui est inspirant particulièrement pour vous, le crépuscule.
Oui, je suis quelqu'un qui adore la nuit. Mais je trouve toujours le moment où le jour est fin, le crépuscule entre chien et loup, j'ai un coup de blues à chaque fois. Et c'est un temps très très important pour l'écriture. Pour moi, c'est un moment où, très inspiré. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça.
Alors, j'imagine que le confinement vous a touché en plein fouet, parce que je lisais pas mal de portraits qui vous sont consacrés, et chaque fois, il y a marqué « bête de scène », « il faut le voir en concert », c'est vraiment phénoménal. Vous pensez aux prochaines scènes, ça arrive quand pour vous?
Dès que possible, ça me rend fou. Je me suis réinventé un peu, j'ai pris quelques élèves, j'ai jamais pensé de faire ça dans ma vie. J'étais vraiment un musicien de scène, et j'ai quelques élèves et j'adore ça, mais j'attends que ça revienne, c'est terrible. J'ai un seul envie, c'est de tourner cet album.
Oui. Quelles sont les scènes parisiennes qui vous tiennent le plus à cœur, Paddy Sherlock, là où vous sentez vraiment à l'aise?
À l'aise, j'ai fait toutes les scènes entre FFF et moi-même et tous les autres trucs, j'ai fait toutes les scènes de Paris. Donc si j'ai une scène que j'adore le plus, c'est l'Olympia. Évidemment. Ah, maintenant, oui. Je ne sais pas si on va me prendre l'Olympia. La première fois que j'ai fait l'Olympia, c'était avec FFF. Et j'étais le deuxième album venait de sortir. Et c'était énorme. Tout le monde voulait voir FFF. Et j'étais la première sortie sur scène, dans le noir. Et je me rappelle l'énergie. Et pour moi, étranger, j'ai monté sur cette scène en disant Charlie Parker, Louis Armstrong, The Rolling Stones, tout le monde a été sur ces planches ici. Et j'étais très, très touché par ça. Donc, j'aimerais bien refaire.
Bien,
s'il vous plaît.
Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous.
Merci, Laurent.
Merci, Paddy Sherlock. Je rappelle
merci
l'album
beaucoup.
Dusk. Sam Bernard, merci à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Vieille Canaille, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et Marion.
Véronique Sanson par Cléa Vincent. C'est demain soir 21h en live stream sur le site de Madame Arthur.
Côté club ce soir, c'est une canaille, oui, mais il est jeune. C'est Étienne Bertin à la réalisation. À la technique, Mathias Alléon. Programmation, Marion Guilbeault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer et aux playlists Muriel Pérez. Demain, on a rendez-vous avec deux musiciens, deux artistes en pleine renaissance, Fears et Victor Solf. Marion ?
Henri Salvador ressuscité dans Home Studio 1970-1975, fantastique compilation imaginée par Guido d'Acidara pour le label Born Bad.
Voilà, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir, alors à demain.